Pourtant il nous reste à savoir. Et tous ces loups qu'il faut tuer, tous ces printemps qu'il reste à boire. Désespérance ou désespoir, il nous reste à être étonné. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant il nous reste à tricher, être le pic et jouer cœur, être la peur et rejouer, être le diable et jouer fleur. Pourtant il reste à patienter, bon an, mal an, on ne vit qu'une heure. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient?
Il est encore passé ce maudit chat.
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur le 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Running wild, lost control, running wild.
Édito du lundi 4 mars 2024 du Monde Merveilleux du Travail. Comme le 20 novembre 2023, nous accueillons Norbert, militant de l'AFA et retraité du secteur des transports, avec qui, comme le 20 novembre 2023, nous allons aborder les déplacements des travailleurs devant se rendre à leur boulot et en repartir. Mais il n'y a pas que. Les politiques économiques et sociales décidées par des technocrates voulant satisfaire les actionnaires ont imposé des règles et des règlements aux travailleurs du secteur routier et ferré, des quotas de personnel et sûrement des déceptions professionnelles. Le transport n'est plus un métier qui fait rêver, il ne fait plus envie et encore, on ne prend pas en compte les risques psychologiques ni les accidents. Donc, en route, durant 1h30 pour une visite des secteurs des transports.
Never mind them brakes, let it all hang out, 'cause we gotta run.
Vous êtes à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89, mais oui, tout à fait. Bah oui. 89 points. Je suis perdu.
4.
Point 4, voilà.
DAB, hein.
Et c'était Ogjo, avec le morceau Eastbound.
Oui, les anciens auront reconnu la musique du film Cours après moi, Shérif, mais repris par un groupe de rock sudiste, Ogjo. Donc, voilà. Eh ben, voilà, c'est une musique pour introduire le thème de ce soir, qui est consacré, encore une fois, au transport, puisque, comme j'ai annoncé dans l'édito, on reçoit Norbert, parce qu'on avait dit qu'on allait faire une deuxième.
Oui.
Hein, il y a toujours matière à dire. Et puis,
il y a toujours.
Et puis c'est toujours sympatoche. Hein, bah, on rigole bien. Oui. Donc voilà, on reprend les...
J'espère.
Voilà. Alors, Eric va arriver un petit peu plus tard. Il est un petit peu en retard parce que, ben, justement.
À cause des travaux, des transports.
Des transports, surtout des opérations escargot, des taxis, qui sont des transports, donc. Et ça marche. Donc, il arrivera vers 20h, je pense. À partir de 20h. Voilà. Donc, bah, merci Norbert d'être venu. Mm-hmm. Une seconde fois, là,
oui,
en très peu de temps,
mais
c'était déjà. Et puis, on va se revoir d'ailleurs.
Bah oui, normalement, oui.
Voilà, donc, effectivement, la dernière fois, on avait fait un petit peu un état des lieux, des contraintes qu'on rencontre dans le secteur des transports, c'est-à-dire les déceptions des travailleurs, d'une part, parce que les conditions de travail se dégradent. Elles sont plus satisfaisantes, plus attractives.
Non, c'est ça surtout.
Et
on avait surtout dit que, vu qu'en ce moment, ils parlent des transports pour les Jeux Olympiques, on avait un peu parlé de savoir comment ça allait se passer. Et donc, sachant, nous, comment ça se passe en temps normal, j'espère que ça se passera bien. Mais, voilà, le problème, c'est que...
Il va y avoir du monde, donc alors il y a déjà sur certaines lignes pas mal de bouchons, pas de d'usagers, on va dire. Peut-être parce qu'il y a pas assez de transport, pas assez de circulation sur certaines lignes. Mais bon, après ça va tomber pendant les congés.
Oui.
Donc on a intérêt à prendre les employeurs, intérêt à donner des congés. Mais enfin, il y a quand même ceux qui vont devoir. Il y a les bénévoles qui vont devoir venir pour les Jeux Olympiques. Il y aura quand même beaucoup de touristes. Et puis il y a quand même des gens qu'il faut qu'ils travaillent.
Oui.
Il n'y a pas que des bénévoles. Il y a aussi des gens qui ont besoin de vivre. Il faut faire marcher les commerces, les restaurants. Il faudra quand même qu'il y ait du monde. Et tout va pas pouvoir se faire en télétravail comme on l'a évoqué lors de la dernière émission,
oui,
qui était le 20 novembre.
Et puis j'ai vu aussi des affiches en vantant le télétravail. Et ça me fait sourire parce que je veux dire, bien sûr qu'il y a du télétravail, mais bon. La société, c'est quand même un peu plus de 70% d'activité autre que le télétravail. Hein.
Oui, de toute façon, c'est sûr que conduire un train, un métro, un bus...
C'est vrai que dans quelques années, on pourra peut-être... Voilà, non, c'est
comme sur la ligne 14.
C'est presque faisable. Hein. C'est simplement que... Question sécurité, c'est pas encore totalement sûr, mais ça se fera. Hein, ça, c'est pas. Faut pas qu'ils rêvent. Hein, c'est quand le capitalisme a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas.
C'est vrai que lors de la précédente émission, on évoquait le fait qu'il y ait de moins en moins de salariés. Pas de salariés, mais de personnes intéressées pour conduire. On évoquait même qu'au bout de 3 semaines, ils se barraient. Effectivement, les employeurs, il faut bien qu'ils pallient un peu à tout ça. Et donc, si effectivement, ils peuvent automatiser...
Tu sais, l'automatisation, c'est très vieux. Hein, je pense que tu connais les lignes numéro 6, tout ça, qui sont pneumatiques. À l'origine, elle devait être en automatique. Il y a déjà une cinquantaine d'années. Ouais. Donc tu vois, donc c'est pas. Non, c'est. Faut pas oublier que quand un système est mis en fonction, même dans ton niveau d'activité, ça se fait pas dans l'année. Hein. C'est des dossiers qui sont déjà là, 25 ans avant. Hein. Je veux dire, là, ils te font tout un plat parce qu'il y a les Jeux Olympiques et tout, sur des nouvelles rames et tout. Mais c'est des dossiers qui sont un certain nombre, hein, qui étaient déjà dans les cartons. Mais le problème, c'est que c'est un coût énorme Quand on dit un coût énorme, c'est vraiment un coût énorme. Hein. Les gens vont s'en apercevoir un petit peu plus tard, mais ça sera un peu tard.
Trop tard.
Parce que quand on parle de milliards, c'est réellement vraiment de milliards. Hein. C'est pas quelques millions comme ça qui passent par-ci, par-là. Hein. Donc il va falloir que le système rentabilise. Donc pour rentabiliser, qu'est-ce qu'il va devoir faire, comme toujours hein. Donc c'est presser les gens et... voilà.
Attendez-vous à être taxé.
Oui, ça, de toute façon, t'inquiète pas pour ça. Faut pas oublier que là, en début d'année, ils ont fait ce qu'il fallait pour beaucoup de choses. Hein.
Oui, parce que les gogos qui vont venir aux Jeux Olympiques, ils vont venir sur une courte période. Hein.
Oui.
Hein. Donc après, ils seront plus là.
Non, ça, c'est vrai. Ça,
c'est plus eux. On pourra plus reprendre leurs sous, là.
Ça ne sera pas les mêmes qui vont être dans le même coin, dans le même quartier. Mais ce qu'il faut surtout dire, bon, là, on n'en parle que pour les transports, mais il faut parler aussi que quand ça va être terminé, soi-disant, hein, que les lieux où ils vont recevoir tout ce qui est la presse, tout ça et tout, vont être normalement remis en état pour pouvoir loger, soi-disant, des personnes.
Des familles.
Des familles et tout.
Des familles aisées, peut-être.
Hein?
Des familles aisées.
On
ne
dira pas...
Les logements neufs.
On ne va pas dire aisés, mais disons que ça sera...
peut-être pas des logements sociaux, quand même.
Un petit peu plus. Un petit peu plus. Tu sais, HLM et ILM, il n'y a pas une grosse différence maintenant. Hein. Avant, oui. Donc, ils vont commencer comme ça. Et puis, donc, le 9-3, qui, depuis quelques années, hein, pour certains qui le connaissent, devient de plus en plus... voilà. Hein, comme ils font à chaque fois. Hein. C'est pas... Et donc, ça restait encore un département. Bon, certes, ils l'avaient oublié pendant des décennies. Hein, faut le moderniser. Maintenant, ils le modernisent à tel point que les gens qui vont être là-bas, ils vont même plus pouvoir y rester. À part ceux qui auront, comme tu dis, un peu plus de moyens. Ils ne seront pas forcément plus riches que toi, hein, t'inquiète. Hein.
Il faudra quand même pouvoir vivre en périphérie de Paris. Mmh. Mais bon, ce qu'on appelle le Grand Paris.
Enfin, oui, le Grand Paris.
Effectivement, on ne sera pas dans le centre, on ne sera pas dans le cœur, on ne sera pas dans le Marais, on ne sera pas dans le premier, deuxième, troisième arrondissement.
Non.
Mais, quatrième, puisque j'ai cité le Marais.
Oui.
Mais bon, ça restera très proche de Paris quand même. Et,
oh bah oui, parce que c'est au port de Paris.
Et
le
but, c'est quand même que
Saint-Denis,
ça se gentrifie.
Voilà. Ouais. Ah oui. Ça, de toute façon, ça, c'est sûr et certain qu'ils vont y avoir le droit. Hein. À part si la société, un matin, se réveille et dit bon, il y en a marre.
Mais ça serait bien que ça soit la révolution.
Ah, justement,
surtout on est bientôt 18 mars. Ça peut éveiller des consciences.
Mais non, mais moi, j'ai rien contre une révolution. Hein. C'est pas ça que je veux dire.
Ah bon?
Mais je me méfie de mes proches compagnons. Je parle pas du mouvement dans lequel où je suis. Quand je suis pas d'accord, de toute façon, je m'en vais et tout. Mais je me méfie un petit peu de ceux que j'ai pu côtoyer pendant des décennies qui ont le verbe révolutionnaire.
Et puis la fibre.
C'est pas la révolution, c'est pas seulement des écrits, hein, c'est pas seulement comme souvent les gens quand ils me côtoient, ils me disent ouais, mais t'es dans un mouvement où c'est le bordel. Je dis non, je suis désolé, gars, hein, c'est l'ordre sans le pouvoir, c'est tout. Ils pensent qu'une société ça se construit comme ça, c'est pas. Et les transports, c'est pareil. Transport, si c'est mal géré, tu pourras rajouter des trains, tu pourras rajouter des bus, tu pourras rajouter tout ce que tu voudras, si c'est pas géré correctement, surtout que on est Paris et sa région, c'est 10 millions d'habitants, et encore, nous, on est petit par rapport à certains pays. Hein.
Ouais, alors, de toute façon, je pense qu'effectivement, dans le secteur dans lequel tu as travaillé, ça doit être un petit peu comme dans tous les secteurs, les décisionnaires, ceux qui sont les plus haut placés, ne sont pas forcément les plus compétents. Moi, je vois ça, je dis, des cadres sont des technocrates.
Ah ben, c'est des gens qui sont là pour gérer, c'est des gestionnaires.
Ouais, hein.
c'est pas
forcément très bon, en fait, leur manière de gérer n'est pas très bonne. Donc, c'est pareil dans les transports, forcément, on est...
Ben, de toute façon, on ne leur demande pas réellement d'être bon, on leur demande d'être efficace. Voilà, c'est tout. Donc, bon ou mauvais... Du moment qu'ils ont fait ce qu'en haut lieu on leur a demandé de faire, même si en bas c'est le foutoir, hein, c'est pas, faut pas rêver, hein, et tout. On leur demande et donc ils le font. Et ils restent pas, ces gens-là. Hein. Faut pas oublier non plus que entre un salarié comme moi qui était dans la maintenance ou un machiniste ou quoi que ce soit, en général, ils restent.
Ouais, tu vas faire carrière effectivement toute ta vie dans le même secteur. Tu vas pouvoir évoluer, mais tu vas rester dans le.
Mais quand tu commences à aller dans les sphères de la gestion de l'entreprise, les gars, demain tu peux les retrouver chez toi. Hein. Tu peux les retrouver chez peut-être.
C'est comme ça qu'on s'aperçoit que dans certains secteurs, dans le commerce, des personnes prennent la tête, la direction d'un magasin, mais on sent bien, enfin moi je le sens, qu'ils sont pas du commerce.
Non.
Donc ils ont, on voit bien qu'il y a des défaillances. De toute façon, ils ont le pouvoir. Voilà. Et puis il faut redescendre effectivement les directives de la direction générale qui et des actionnaires. Hein.
Mais bon, c'est surtout les actionnaires
qui veulent faire du chiffre, du
plus tard. Donc
le facteur humain, ça passe un petit peu après.
Ah oui, mais ça de toute façon. Je crois qu'on n'a pas besoin de l'expliquer pendant des heures, nous. Hein.
Si. On n'a pas besoin de s'expliquer entre nous. Non. Mais comme il y a des auditeurs et des auditrices qui ne sont pas forcément anarchistes, libertaires, syndicalistes, révolutionnaires, on va quand même le dire.
Fabrice, sans être anarchiste, soit, je veux dire qu'en général, si les gens ne s'aperçoivent pas de dans quel système ils sont, c'est où ça les intéresse et donc ils ne veulent rien faire, ou alors ils sont aveugles. Parce que même si t'es pas un spécialiste, même si t'as pas fait des grandes écoles, tu vois bien que qu'est-ce qui marche toujours et qu'est-ce qu'ils veulent toujours, et c'est le.
Alors il y a de l'aveuglement, certes, mais il y a aussi une part d'endoctrinement. Hein,
oui, fait que, c'est facile.
Hein, dire que ça marche comme ça depuis. Oui, il y a plein de choses qui font
l'endoctrinement, c'est facile.
Que l'autoritarisme et que des chefs dirigent. Oui, c'est.
Ah oui, mais si tu
on connaît ça depuis tout petit, tu vas à l'école, tu vas.
Même moi, j'ai fait des stages sur ça, justement, quand j'étais
management.
Dans l'entreprise, pour comment syndicalisme, t'essaies de voir un petit peu pour quelles raisons. En face de toi, t'as des gens qui savent très bien qu'ils ont tort, mais comme ils ont la manière et, comme tu dis, le pouvoir de dire non. Donc, on a fait des formations comme ça, et c'est vrai que je l'ai vu de l'intérieur comment ça marchait. Hein, c'est pas. Et puis je les ai rencontrés, ces gens-là.
Ouais. Ah, tu dis pas les côtoyer.
C'est pas voilà, donc je veux dire, c'est pas, c'était pas astré. Voilà, hein. Vous savez, quand certaines personnes là, ils sont allés voir arriver, ils veulent des petites signatures, des petits machins. J'arrive jamais à les comprendre parce que quand ils vont être partis, ce qu'ils auront mis en place, ce ne sera pas un sourire et puis une petite signature sur une petite carte. Hein. C'est dans l'entreprise. Hein. Mmh. Et les transports, ce n'est pas qu'une petite entreprise, hein, c'est tout un ensemble. Hein. C'est pas seulement notre petite personne. Hein. C'est, ne serait-ce que déjà là où j'étais, hein, c'est quand même. C'était à l'époque, hein, mais je pense que ça doit être à peu près pareil. 50 à 52 000 salariés, tout confondu. Hein.
Ah ouais.
Hein. Je ne parle pas de la SNCF, même si syndicalement on était avec eux, c'est encore un peu plus conséquent. Donc ce n'est pas une petite boîte, c'est pas pour abaisser le commerce du coin, hein, mais je veux dire, c'est pas du tout la même chose.
Personnel à gérer. Ouais.
Puis tu transportes des millions de gens par jour. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est des millions de gens, c'est pas. Pas des centaines de personnes. Hein. Puis tu connais les voyageurs, hein, ils sont pas plus intelligents que le salarié de la boîte, hein, enfin non plus. Hein.
Oui, c'est
vrai. Quand je dis ça, t'inquiète pas, je suis pas en train de dire qu'on est avec une auréole. Hein, que... Non. Hein, c'est...
Une calvitie peut-être.
Oui, ça pourra, je pense, auréole. Pour un certain nombre arriver et tout, mais bon, c'est pas grave, ça. Tu mets un chapeau et puis ça le voit plus. Du moment que ton cerveau n'est pas atteint, hein, c'est surtout ça.
Faut que ça creuse.
Voilà. Donc voilà, oui, comme on disait sur tout ce qui pouvait être accident de travail.
Bah, par exemple, oui. Parce que déjà.
Tous les jours. Alors, ça pouvait être bénin, comme ça pouvait être conséquent. Donc, comme en plus, moi, j'étais secouriste donc, dans l'entreprise, donc je savais comment ça se passait, plus ou moins, surtout. Hein.
Ouais.
Pas seulement par rapport à l'accident du travail, mais quand tu es cesté, c'est plus que secouriste. Hein, tu dois rentrer dans un cahier pour que ça puisse prendre en compte. Parce que si c'est pas, s'il n'y a pas d'écrit...
c'est pour les déclarations d'accident de travail.
Et puis s'il n'y a pas d'écrit...
c'est comme s'il n'y avait rien.
Pour eux, c'est ça. Hein. Et donc, moins tu avais d'accident où tu devais expliquer et tout, et mieux c'était pour un certain nombre de dirigeants, parce que c'est un pourcentage. Hein. Pour eux, tu ne dois pas dépasser ce pourcentage-là. Et tout, donc moi...
Il y a un seuil de tolérance.
Voilà.
D'accident.
Mais ce qui était fou, c'est que moi j'en ai rempli des cahiers, je veux dire, en X années et tout. Mais ils venaient revoir un petit peu l'explication que tu donnais sur l'accident de travail. Parce qu'il pouvait dire, tu es sûr qu'il ne faisait pas comme ça pour moi et tout ? Est-ce qu'il n'a pas fait une erreur ?
Ça, c'est toujours un petit peu partout. Ils remettent déjà toujours en doute le fait qu'on se blesse sur son lieu de travail.
Il y a ça. Mais en plus, nous, on était, comme on était assermenté, tu sais que si on faisait une erreur ou si on faisait un faux témoignage, je pouvais me retrouver au tribunal. Hein. Ce n'est pas l'entreprise. Hein. Non, c'était le...
Mais la personne qui...
Parce que c'est moi qui remplissais le cahier, donc j'avais la responsabilité de... Alors, pas moi seulement, on était plusieurs, et tout. Mais non, c'était... Et puis, alors, tu sais, des fois, c'était pas seulement de remplir le cahier. Après, il fallait... quand c'était pris en compte, il fallait aussi certifier que c'était bien toujours ça. Donc, faire attention de ne pas changer son écrit ou ses paroles. Que des fois, tu es rappelé 6 mois après ou 1 an après. Tu ne te souviens pas toujours de ce que tu as écrit.
Surtout s'il y en a fait d'autres entre-temps.
Voilà. Et ça, ils sont forts là-dessus. Hein. Donc, tu as intérêt à faire très attention. Et je pense qu'en ce moment, ils doivent faire très, très attention parce que, comme la boîte... cette année, ils vont la laisser tranquille parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais bon, elle va être scissionnée. Hein, donc, il va y avoir un prestataire qui s'occupera des bus, et puis après, et puis le restant, ça sera... Voilà.
Je regarde la technicienne.
Oui, moi aussi je la regarde parce que je vois qu'elle fait des gestes, donc elle veut peut-être qu'on réduise.
Termine.
Et donc, dans les accidents de travail, tu en as tous les jours, de toute façon. Alors, ils peuvent être bénins comme ils peuvent être conséquents. Tant que les pompiers ne sont pas appelés dans l'entreprise, ça restait un incident, voilà, on va dire, un accident bénin. Que tu pouvais quand même faire valoir après aux instances de la... Alors chez nous, c'était la CCAS et tout. Je ne sais pas chez vous comment c'est, mais tout. Qu'il fallait faire des dossiers. Puis après, ça pouvait être pris en compte. Pas forcément pour avoir une indemnité d'accident de travail, mais au moins être reconnu que si par la suite, ça s'aggravait ou s'il y avait des conséquences et tout, tu pouvais revenir du moment que c'était pris en compte... Mais il fallait d'abord qu'elle soit prise en compte juridiquement.
Et alors, quand tu évoquais aussi le fait que les employeurs y mettent un petit peu en doute, ils veulent absolument s'assurer que c'est bien un accident du travail. Il faut savoir aussi que l'employeur, lui, il doit verser certaines sommes à la Sécu, et ce pendant 3 ans. Donc, j'ai intérêt à se décharger un maximum, surtout si l'accident est lourd. Quoi.
Oui. Mais, de toute façon, nous, par exemple, alors c'est une digression sur l'accident de travail. Chez nous, par exemple, je pense comme chez vous et tout, à une époque, il y avait une loi qui était passée en disant que les entreprises devaient embaucher. Un minimum de personnes handicapées.
Ouais, c'est 6%. Voilà. C'est 6% de la masse salariale.
Quel que soit son handicap. Et tout. Et ben, pendant des années, notre boîte, préférait payer les amendes qui étaient mises dessus, parce qu'il n'y avait pas le pourcentage de...
Alors, c'est pas vraiment des amendes. Hein.
Non, mais c'était...
Ils payent une caisse, effectivement, qui va alimenter...
Bah oui, mais ça ne les dérangeait pas. Que... Pourquoi ? Parce que quand tu mets une personne handicapée,
il faut aménager aussi le lieu où elle va travailler. Lieu.
Déjà qu'ils avaient du mal d'aménager les lieux pour ceux qui étaient déjà dans les, par exemple moi en atelier, mais même pour les bus, hein, pour autre chose et tout, ils avaient déjà du mal, hein, c'est qu'il il fallait batailler, hein, pour avoir des, tu sais, c'est moi, c'est en fin de carrière que j'ai commencé à avoir des établis vraiment qui étaient, on va dire, presque faits pour nous au travail. Voilà.
Ah bah, comme quoi tu veux, voilà. Comme quoi il faut être patient. Bon, on va s'écouter un petit peu de musique.
On va lancer une petite musique.
Comme ça, on va ouvrir la porte à Eric.
Voilà, c'est ça. On va écouter 35 tonnes de Star Shooter.
Voilà.
Dans le monde merveilleux du travail sur Radio Libertaire 89.4.
Notre cher.
Voilà, une petite musique un petit peu énergique, 35 tonnes. C'est ce qu'il faudra, Eric, qui vient de nous rejoindre, pour écraser la gueule à tout le monde. Il est hyper monté.
Salut tout le monde. Bon, bah, je suis désolé d'arriver, mais c'est la faute à plein de. À moi d'abord, qui suis un con de salarié, d'abord. Hein, faut rendre à César ce qui lui appartient. Qui n'ait pas pu devenir un patron qui exploite les autres. Eh oui, et ça non plus.
Il n'y a pas pu ou qui n'a pas voulu ?
Et qui n'a pas voulu, surtout, parce que déjà, je suis trop feignant pour bosser, trop feignant pour exploiter les autres, et ça m'embête. Et puis, je suis bien que tout seul. Bon, à part quand je viens à l'émission du Monde Merveilleux du Travail, où je rencontre les copains, c'est différent, les copines, c'est différent. Bon, alors, émission spéciale transport, Norbert. Putain, hey, la RATP, hein, sans déconner, il faut n'acheter plus de billets RATP. De toute façon, vous pouvez passer même sans acheter de billets, puisque les deux stations que j'ai faites, les deux tiers des robots sont morts. Donc, et bravo la maintenance. Hein. Bon, il n'y a pas d'argent, mais chers amis contribuables, eh bien, rassurez-vous, on va continuer à vous essorer pour faire semblant de remettre en état le matériel roulant, comme le matériel des stations, hein, si je ne m'abuse. Bon, non, c'est une... ouais. C'est... Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce que ça signifie dans le langage secret de la RATP, qui a... nous entendons nous dit que lorsque le métro est en stationnement entre deux gares...
Oui.
Veuillez patienter quelques minutes pour régulation de trafic. Il nous a fait une régulation de trafic entre chaque station, entre Saint-Lazare et ici. Mm-hmm. Donc, ça fait qu'on a passé, au lieu de passer 20 minutes dans le métro, j'en ai passé 40.
Bon, ça va déjà 40.
40 minutes avec tous les pulls à sueur que je peux pas blairer non plus.
T'aurais pu passer plus d'une heure, hein.
Ça m'est arrivé, mais là...
La régulation, oui, comme ils disent, c'est parce que comme tu as des trains qui sont, comme je l'avais dit la dernière fois, tu as en moyenne entre 1 minute 30 et 2 minutes maximum, entre chaque station. Mmh. Il suffit d'une dérégulation, d'un petit problème, un seul, hein, et tout, et tu dérègles toute la ligne. Il suffit que toi, tu es tombé sur un train qui était peut-être au milieu de la... de la régulation, et donc il a fallu qu'à chaque fois remettre à chaque station, quand un train partait, il y avait une régulation qui se faisait, et toi t'es certainement tombé dans le lot du fait que t'étais pas dans les premiers, et tu t'es donc chopé au lieu de 20 minutes de transport tranquillos, tu en as passé 40 minutes,
oui,
et tout. Parce qu'à chaque fois tu déplaces une rame, mais tu peux pas remettre une rame tout de suite. Parce que question de sécurité, alors, normalement, je disais normalement, ça ne doit pas arriver, les accidents. Mmh. Normalement. Parce que s'il y a un problème, automatiquement, ça s'arrête. Mmh. On ne peut jamais être sûr. Hein. Mmh. Faut jamais dire, jamais je ne boirai de tourneau. Mais normalement, ça ne doit pas arriver. Mais le fait de réguler les trucs, et puis peut-être aussi, tu tombes aussi, qu'ils font peut-être aussi des essais, hein. Ils te le disent pas.
Ouais. Ils te le testent, c'est ça.
Non, pas toi.
Ils testent ta nervosité, ton humeur.
Si, si. De voir ce que ça peut donner quand il va y avoir...
Parce qu'il y a,
là, il va y avoir un afflux conséquent. Là, c'est pas quelques... On en discutait il y a pas longtemps. C'est pas quelques centaines de milliers de gens qui vont être là pendant presque un mois. Hein. Ils ont prévu que... J'ai cru comprendre qu'en voyage, pas en voyageurs seulement, mais en touristes et tout, ils allaient entre 4 et 6 millions de gens.
Ils nous cassent voilà. Déjà.
Donc tu sais, même s'il y en a qui s'en vont,
bonbons.
Même s'il y a des gens qui s'en vont, tu vas avoir une autre sorte de touristes et de voyageurs qui vont venir. Donc tu auras autant de personnes, peut-être voire plus. Donc il va falloir réguler tout ça. Et tu pourras mettre tous les trains que tu veux, comme je le disais il y a 5 minutes. Tu pourras mettre tous les transports que tu veux. Tu pourras même les mettre gratos. C'est pas c'est tout. Faut que tu régules les voyageurs.
Et là, si tu vas me dire que c'est pour tester le matériel, j'étais dans un wagon de 1973.
Oh là là.
Un M73.
Non, encore. Quelle ligne c'est?
La ligne 3.
Ah, oui, c'est vrai, c'est pas encore terminé.
C'est juste avant de le mettre à le déclasser. Hein,
ah bah ça va venir, hein, t'inquiète, putain, hein, c'est oui. Parce que tu t'as pas de bol, tu vas être la dernière ligne à être remis à neuf.
Ouais,
mais
avec mon argent,
ben oui,
je refuse. Je le dis tout net, je préfère aller à pied.
Ouais.
Bon, c'est plus tranquille, encore que.
Oui. Mais t'auras pas le choix, on te le prend ton argent, on te demande pour ton avis.
Tu peux faire un courrier si tu veux. Hein.
Prends la source.
Oui, comme bon. Certains qui disent qu'on devrait pouvoir payer les impôts qu'on veut et pas les, ceux qu'on ne veut pas. Malheureusement, comme c'est englobé, tu peux dire je ne veux pas donner de l'argent pour les, le nucléaire, je ne veux pas donner de l'argent pour les militaires, mais le problème est que comme c'est englobé, tu peux faire la demande.
Mais le fléchage n'est jamais très clair non plus. Hein.
Voilà.
Ouais. Alors, du coup, on parlait, effectivement, on a évoqué un petit peu les accidents du travail, les risques psychologiques sur les travailleurs du rail, du pneu et de la roue à bois, je ne sais quoi.
De la luge.
Du coup, et nous, qui utilisons les transports, nous, les usagers, ça aussi, un impact, il y a de la charge mentale, hein, en fin de compte. Ouais. Et ça, c'est pas pris en compte en accident de trajet, en maladie professionnelle ou quoi que ce soit. Pourtant, regarde comme il est là.
Il est redescendu.
Il est redescendu un peu, mais quand même, on sent qu'il a encore quelque chose qui est resté coincé.
Il y a plein de choses qui sont restées coincées. D'ailleurs, ça a tellement coincé que ça n'arrive pas à sortir.
Par exemple, pour les voyageurs, parce qu'il n'y a pas seulement que les salariés qui sont occasionnés par ces problèmes-là. Là, en ce moment, là où j'étais syndiqué, bon, je le suis toujours plus ou moins, mais un peu moins. Là, ils ont été obligés de mettre le jugement. Donc, ils ont porté plainte à l'Europe. Parce que tu as plusieurs étapes à l'Europe quand tu veux porter plainte sur du sujet déterminé. Tu as plusieurs instances.
Cour européenne de justice.
Cour européenne de justice. Bon. Par exemple, pour le problème de la pollution dans les transports. Ouais. Vous savez que, quand tu prends le métro...
Les particules fines
les particules fines, elles sont toujours là. Même si tu améliores les conditions d'aération et tout ça, elles sont toujours là. Et donc l'entreprise, pendant des années, comme toujours, c'est pas spécifique à elle, a fait le dos rond ou a fermé un œil, des fois fermé les deux œufs et tout. Et puis, donc, elle n'a jamais voulu reconnaître qu'elle dépassait le taux déterminé. T'as un taux... Alors, qu'est-ce que ça veut dire
un seuil de tolérance aussi, encore.
Voilà, un taux de tolérance, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, si c'est pollué, c'est pollué. Mais bon, il semblerait que quand ça a un taux de tolérance...
C'est le seuil de tolérance dont tu parlais tout à l'heure pour les accidents de travail. Il ne faut pas le dépasser. On a le droit de tuer des gens... Mais pas plus que ça.
Voilà. Et donc, ils l'ont mis en zut. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner et tout, mais être obligé d'aller dans une instance qu'on va dire. Je l'ai toujours dit à mes collègues syndiqués, et même à ceux avec qui je côtoie dans certaines manifs. Je veux dire, l'Europe, déjà que chez nous, on n'est pas foutus déjà. Là, peut-être qu'ils gagneront. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ce qu'il faut qu'ils gagnent, c'est surtout que l'entreprise fasse le nécessaire, qu'elle réduise au maximum. Tu en auras toujours des particules, tu ne peux pas faire autrement. Hein. C'est les frottements, c'est les poussières, c'est...
Les freinages et tout.
Mais réduire au maximum, parce qu'en réalité, ce sont des particules tellement fines que n'importe quelle personne, le petit bébé, les avale, sans s'en apercevoir. Hein. Même toi, hein, tu peux. Même moi, hein. Moi, je veux te dire, ayant travaillé dans un environnement et tout, j'en ai avalé des particules. Hein, je veux dire.
Et donc, il n'y a pas de filtre pour ça aujourd'hui?
Ils ne sont pas suffisamment, efficaces. Conséquents pour et tout. Mais le problème est toujours là, c'est que tu pourras mettre des filtres et tout, mais les filtres après, il faut aller les détruire. Donc tu vois, c'est comme toujours, hein, ça se mord la queue. C'est que d'un côté, tu vas mettre des filtres pour réduire les problèmes concernant. Là, c'est les particules.
Tu vas être obligé d'aller les enterrer en Afrique, là-bas. Là.
mais il n'y a plus de place même maintenant là-bas pour les enterrer. Ils sont obligés de les entasser. Automatiquement, nous, par exemple, l'amiante. Alors nous, je veux dire, par rapport à d'autres environnements, nous, c'était 100%. Il y en avait partout.
Tu en as eu de la chance.
Il y en avait partout, nous. Il y en a encore, là, parce qu'ils ont encore porté plainte à l'entreprise, parce qu'elle n'a pas fait le nécessaire encore. Alors, comme elle dit, vu qu'on va changer le matériel, bon, ça fait quand même 40 ans qu'à chaque fois, elle dit qu'elle change le matériel, ce qui se fait, hein, c'est vrai, ça se fait. Mais comme toi, par exemple, là, le train, il va être changé. Hein, faut pas t'inquiéter, il va être changé. Ouais. Mais il est toujours de l'ancien modèle. Donc, on sait pertinemment que dedans, il y a encore des endroits où il y a des particules d'amiante. Voilà. Donc, tu vois, que ça soit le salarié de la boîte ou que ça soit l'usager, le voyageur, l'usager. Alors, certes, celui qui est dessus va en ingurgiter un peu plus quand même, parce qu'il est à même de l'activité. Mais le voyageur aussi, il ingurgite des cochonneries. Faut pas
ouais, surtout qu'ils aiment bien ouvrir les carreaux, les gens. Tu vois,
oui.
Ils aèrent. Oui. On va aérer un petit peu. Hop. Ah, c'est mieux, il y a du vent, c'est meilleur.
Bah, ce qui est
un bande de cons.
C'est un peu comme qu'ils sont absurdes. Ils sont absurdes parce que, je veux dire, même si c'est pas au top, je veux dire, il y a des aérations. Elles sont toujours à améliorer, hein, les aérations intérieures des trains. Mais il faut mieux laisser fermer les fenêtres que de les laisser ouvertes.
Ah oui, mais je suis persuadé.
La convenance, c'est que c'est pas encore. Les gens pensent toujours.
Mais tu vas pas te battre avec tout le monde.
Tu leur expliques, mais bon, t'en as qui vont comprendre. Et puis, comme toujours, t'en as qui vont jouer les révoltés des salons de coiffure, hein, et tout. Excusez-moi pour les coiffeuses, hein, et tout.
Je connaissais pas cette expression.
Tu connais pas? quand tu es dans un salon de coiffure, tu en dis beaucoup de choses.
Oui.
Vous savez, ma voisine, hein, et mon voisin, je t'en parle pas. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est aussi les gens qui sont pas toujours...
Par méconnaissance ou...
C'est pas toujours ça, je pense. Oui, ça peut jouer. Hein. Ça peut jouer.
Avec la dernière fois,
penser que les gens soient meilleurs que d'autres. Voilà. Moi, j'ai jamais pensé à ça, tu sais. Je dis pas que je suis meilleur que celui que je transportais en étant mainteneur. Et j'ai jamais pensé que le voyageur était meilleur que moi parce que. Et tout.
Moi, j'ai toujours pensé que j'étais meilleur que les autres, quand même. Hein.
Oui.
Oui, je partage aussi.
Quand tu connais un petit peu, tu sais que j'ai quand même un ego un petit peu surdimensionné.
Oui,
quand même.
Dimensionné, dirais-je.
Mais alors, pourquoi t'es pas devenu chef d'équipe, alors, merde?
Je veux pas devenir chef.
Ah non, surtout pas d'équipe.
Je veux pas devenir patron, je veux pas devenir chef. Je suis quand même syndicaliste révolutionnaire. Mais enfin, je me...
Pour revenir à ton propos sur les usagers, mais aussi les salariés de la RATP, pour prendre la RATP, qui inhalent des particules fines qui petit à petit vont leur occasionner des cancers méchants.
C'est pas improbable. Hein.
Moi, j'ai trouvé un certain nombre de chiffres. En 2019, par exemple, un Français utilise à peu près 7 heures de transport par semaine. Ouais. En fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à un sixième jour de travail. Je fais le calcul rapidement. Un peu plus de 7 heures. Les statisticiens, 7 heures et 12 minutes. Ça fait carrément une journée de travail en plus. C'est dingue. Donc, ça veut dire que 7 heures dans les transports, pendant 7 heures, ça a supposé que tu prennes le train et le métro. Sur la route, c'est pareil. Hein.
Oui,
sur le périph', sur les... Voilà, c'est pareil. Tu avales pendant 7 heures...
Tu avales tout ce qui traîne, de toute façon. Hein. Je veux dire, c'est pas spécial.
Donc déjà, tu es en situation par rapport à tes conditions de travail, puisque tu... Au moins à 50%, puisque c'est partagé, mais ça, c'est pareil, c'est une connerie. Tu mets ton organisme en danger en allant bosser. Quoi.
Ah oui?
C'est parfois assez visible, tu sais. On parlait des particules fines, mais il y a des particules moins fines. Et je rejoins Fabrice, quand c'est pareil, je ne supporte pas qu'on ouvre les fenêtres dans le métro. Je les ferme souvent, quand il n'y a pas grand monde. Mais après, tu ne peux pas lutter quand c'est blindé. Tu ne peux pas péter la gueule à tout le monde dans le wagon. Mais effectivement, quand il y a un halo de lumière, tu vois les particules qui moins fines, hein, parce que tu les vois, donc c'est pas. Mais tu vois toute la merde qui entre dans le wagon. Ils sont. C'est bon.
Je sais pas s'ils disent ça.
C'est frais. Hein.
Ils ont un orgasme. Homme ou femme.
Tu sais, moi, je vais te dire.
Bande de crinspec, il y a la merde qui se pose sur la peau. Enfin, bon,
Avant d'être mainteneur, donc avant d'avoir passé mes concours à mes services, j'ai commencé comme nettoyeur dans le métro. Hein. Donc je peux te dire, quand on nettoyait un train, je pouvais te dire ce qu'il y avait dedans. Mmh. Donc déjà à l'époque. Et quand je te dis nettoyer, c'était vraiment... Ouais. Donc la merde, qu'on le veuille ou non, elle était partout. Ouais. Hein, et, la poussière, elle était là. Ouais. Et ouais. Bon, bah, la poussière, tout, avec tous les produits qu'il pouvait y avoir. Parce qu'en plus, on utilise aussi les produits jusqu'à une certaine époque.
Les solvants.
Voilà, ouais. Et qui n'étaient pas vraiment... comment on va dire on va pas dire autorisés, mais il n'y avait pas des normes. Bon, c'est toujours pareil, les normes. Hein, c'est... voilà, mais disons que...
Ce soit vraiment énorme pour les voir.
Quoi. Voilà, voilà. Mais c'est, oui, c'est, mais c'est très bien ce que tu viens de faire. C'est énorme. Mais non, non, ce qu'il y a, moi, par exemple, nous, les produits, on a commencé à avoir des protections, je dis bien, hein, vraiment des protections, ouais. Des EPI réellement sérieuses. Quoi ? Allez, je ne vais pas être désagréable. 10-12 ans avant mon départ à la retraite.
Ouais, quand même.
Ah oui, mais j'avais déjà fait...
Mais deux tiers de ta carrière, allez.
Alors, il y avait des protections, mais elles ne correspondaient pas du tout à... Tu mettais un masque. Tu mettais un masque, mais en réalité, je veux dire, le solvant, il passait quand même. Donc, alors, moins.
C'était un masque de carnaval. C'était un masque de Zorro, tu... Ah bah t'as voulu un masque, t'en as un, hein.
Oui, voilà, d'accord. Et un masque, comme on dit, de protection. Mais ah. Tu avais donc... alors certes, oui, ça, il y avait un barrage, tu vas me dire. Il y avait un barrage entre le produit et toi. Mais c'était pas le truc qui arrêtait au maximum le problème de tout ça. C'est pour ça qu'on avait des radios, on avait des scanners, des trucs comme ça. C'était pas pour nous faire plaisir, hein. C'était pour...
l'évolution de la maladie. Excuse-moi,
je... non, mais tu rigoles, mais quand je suis parti...
Ah bah vous, on va vous virer, parce que... On va non, pas avoir votre mort sur la conscience.
Ah non, mais j'avais pas... Non, mais
c'est en fonction de...
Non, non,
d'intoxication, t'es pas... Bah, fin de contrat.
Non, ils n'avaient pas besoin de te virer, pas du tout. Simplement que par rapport aux lois qui passaient très difficilement et tout... Et il disait, bah oui, mais de toute façon, oui, ok, on va vous donner la possibilité de vous, d'aller faire des radios, de vous soigner et tout. Mais que de toute manière, certaines maladies, de toute façon, tu n'as rien. Par exemple, tu vas prendre l'amiante. L'amiante, si tu chopes le problème de l'amiante, c'est pas l'amiante en elle-même, hein, c'est la destruction de la paroi de tes poumons.
La plèvre.
Ah, tu peux avoir, on peut même te donner de l'argent, il n'y a pas de problème, hein, c'est la famille qui profitera. Il y a pas de médicaments, il y a pas de d'opérations qui pourraient, tu sais, des fois t'as un poumon, bon t'es fumeur, t'as un poumon, on t'en retire un petit peu, tu peux arriver encore à tenir quelques années et tout. Là non, c'est la protection, donc de toute façon elle se refait pas dès que
ça devient pour eux.
Voilà, elle est détruite et donc c'est des nodules, tu sais, que tu peux avoir. Alors tu peux avoir des petits, des gros et tout. Moi j'en avais, mais ils n'étaient pas cancéreux. Hein. Je veux dire, ils se sont pas développés et tout. Mais il est pas dit, bon, je suis pas là pour me dire que dans 6 mois, 1 an, ça va se développer, non. Mais je veux dire, ça peut se développer à n'importe quel moment. Mais j'ai un dossier médical qui fait que je peux aller me faire soigner gratos. Je veux dire 100%, mais de toute façon, du fin, de toute manière, si ça m'arrivait...
Et tu sais que t'es foutu, quoi.
Bah, voilà, disons qu'on va, avec la médecine qui s'est un peu améliorée quand même, mais tout, elle va te donner un peu plus de temps, c'est tout. Mais un peu plus de temps, pourquoi faire si tu sais que de toute manière, tu sais qu'il y a...
des transports en commun.
Et tout. Donc voilà. Mais je parle pour ces problèmes-là.
Vous allez tous venir avec moi.
Et tout. Donc, mais même les voyageurs, ils ont respiré de l'amiante. Il ne faut pas rêver. Jusqu'à une certaine époque...
Et on en respire encore.
Jusqu'à une certaine époque, le frein, justement, le freinage, comme tu disais, c'était la partie ferraille. Il y avait dedans de l'amiante. Parce que ça évitait de prendre feu.
Ouais. C'est ça. Ouais. Surtout dans les trucs de 73.
Bon, encore 73.
En amiante.
Non, mais encore 73, c'était déjà un peu plus modernisé. Hein. Il a pas que ce de 67 ou de 65, c'était encore pire. Hein. Ouais. Et tout. Donc voilà. En fin de compte, l'amiante, c'était surtout pour éviter les incendies assez faciles. Ouais, ouais. Ça colmatait tout. Ah, ça, alors là, tu mettais de l'amiante, ça colmatait.
On a mis de l'amiante, comme ça, vous ne prendrez plus feu dans le tunnel. Ah, non, d'accord. Ah, on y gagne.
Mais il n'y en avait pas que dans les tunnels. et c'était utilisé partout. Hein. Je veux dire, il y a même certains qui travaillaient dans les bureaux. Qu'on travaillait pendant des années avec des plafonds qui étaient floqués à l'amiante. Alors, comme ils disent, tant qu'il n'y a pas de frottement, comme ils disent.
Tu ne perces pas tout ça.
Voilà. Comme ils disent. Mais c'est une absurdité parce que même si tu n'as pas de frottement, ça vieillit.
Ouais. Ça se détériore naturellement.
Ça se détériore, hein, quand même, que tu le veuilles ou non. Hein, ça se détériore. Hein, donc, tu avais quand même des particules qui se baladaient et tout. Mais nous, on a eu quoi? À l'époque, 5 ou 6 qui sont décédés de ça, qui sont décédés de ce problème-là. Bah, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est que, bon, bah, il y avait une indemnité, hein, parce que l'État avait bien voulu faire passer la loi après 96 et tout, en bataillant quand même, hein, et tout. Et donc, tu avais droit à une indemnité. Mais il ne fallait. Alors, si tu acceptais l'indemnité, hein, et tout.
Il ne fallait plus fumer.
Non, tu n'avais plus le droit de mettre en cause ton entreprise. Si tu acceptais le deal, je veux dire,
la boîte, ou alors tu mourrais sans argent, mais tu pouvais attaquer la boîte tant que tu voulais.
Oui, voilà, parce qu'il y avait à l'époque, il y a eu des l'association existe toujours sur l'amiante et tout, qui avait attaqué l'État carrément et tout, qui avait gagné, ouais. Vous avez reconnu que c'était vrai, oui, ok, que l'État était au courant que ce produit, donc amianté, était dangereux pour l'être humain, puisqu'il le savait depuis les années 30 et tout. Mais voilà, ça en est resté là.
Je me demande à quelle mesure c'est légal, ça, finalement, en mettant un juriste là-dessus, si l'espèce de marchandage qu'on te propose, on te donne une indemnité, bon. Vaut ce qu'elle vaut, peu importe. De toute façon, c'est loin de couvrir la réalité du préjudice, si jamais on voulait la couvrir. Et d'un autre côté, on te dit, bah ok, maintenant que tu as empoché l'indemnité, tu te tiens tranquille, tu restes pas en justice. Je ne sais pas si c'est très légal.
Je ne sais pas, ça peut être. Il y a les transactions. Tu peux faire, par exemple, quand tu fais une rupture conventionnelle, tu négocies avec ton employeur. Le montant de ta rupture, mais après tu peux l'attaquer au prud'homme. La transaction, tu peux pas. Une fois que tu fais une transaction, tu peux plus l'attaquer. C'est peut-être un peu sur cette même base.
Oui, non, mais de toute façon, je veux dire que ça soit une loi de l'État ou une loi syndicale ou une loi machin, au départ, de toute façon, on sait pertinemment que c'est par rapport à la force que tu vas avoir pour qu'elle soit valable. Regarde l'État, quand ils veulent te mettre une loi anti-casseurs, c'est pas pour les anti-casseurs seulement qu'ils te mettent la loi. C'est pour les gens qui vont manifester aussi pour d'autres sujets, mais ils ont englobé tout dedans. Et c'est ça, en fin de compte, le problème. C'est pas que c'était légal ou illégal, c'est que la manière où c'était présenté, je veux dire, la personne, de toute manière, qui faisait ce dossier-là, mais attention, avant d'avoir fait ce dossier-là, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient passées avant. Hein. Ça ne se faisait pas du jour au lendemain. Et les sommes étaient dérisoires. Faut pas en rapport et tout. Mais c'était surtout la famille qui pouvait le récupérer. Parce que la personne qui était...
Pour payer les obsèques. Ça payait à peine les obsèques.
De toute façon, la personne qui était atteinte de ça, de toute façon, de la plaie, de toute manière...
c'est un cercueil en cagette.
Voilà. Je pense que les familles à qui ça arrivait, ils devaient certainement pas être toujours. Parce que le problème, c'est que c'est.
Non, mais on se moque. Attends, on se moque pas des camarades qui sont décédés de ça. C'est le côté dérision, mais parce que.
Non, mais t'inquiète, de la gueule du monde, quoi. Je la comprends, on veut pas. Attends. Mais je veux dire, c'était la dégradation de la personne qui était malade et tout, était vraiment. Était conséquente. Tu sais, c'était aussi dur, aussi. C'est dur que quand à l'époque, quand les mineurs mouraient de silicose et même d'autres maladies, parce qu'en réalité, ils mouraient plus. Alors, j'ai plus en tête, il y avait deux autres maladies aussi qui étaient conséquentes dans les mines, qui mouraient plus de ces deux maladies-là qu'en fin de compte la silicose. Mais c'est déjà La silicose, quand tu es, c'est les poumons. Hein.
Mmh. Ah oui, j'ai
aussi. C'était, je veux dire, de toute façon.
Dans le sang, chez moi.
C'était quand il te disait, ah ben oui, vous l'avez, bon, il savait hein, que.
Ouais. Faire tout vite après.
Bah, de toute façon, c'était très rapide, hein, de toute façon. Mmh. Parce qu'une manière, il n'y avait plus rien, plus de possibilité de respirer comme ça. C'était noir. Quand il crachait, c'était une réalité. Tu sais, je suis allé voir dernièrement l'exposition des mineurs là-bas dans le Pas-de-Calais et tout. Ils expliquaient bien. Hein. Dès que tu avais ça, c'était plus la peine hein, de penser.
T'as ton avenir.
Ton avenir. Mais le pire, c'est qu'à l'époque, les familles touchaient que dalle. Quand on dit que dalle, c'était vraiment rien du tout. Hein. Ils perdaient même. Parce que comme la personne, elle mourait du travail qu'elle faisait, mais le travail qu'elle faisait, c'était la compagnie minière à qui appartenait le restant.
Le logement, les...
Donc tu vois, si on revient et puis si on repart toujours, même si maintenant... Ça se fait plus trop comme ça, mais bon, c'est fait différemment. Ouais. Mais voilà. Mais donc, les maladies professionnelles, c'est les entreprises ou même les commerçants et tout, c'est, ils sont pas. Ça leur va pas, ça leur plaît pas. Hein, parce que, tu sais, on va changer par exemple de produit. Il faudra te dire, de toute manière, tu n'as pas besoin hein, d'être un scientifique pour ça. Il sera de toute façon mauvais pour nous. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Ça va réduire, certes, c'est vrai. Ça réduira le destruction, risque, ouais. Ça réduira... Tu pourras vivre plus longtemps. Mais de toute façon, il faut arrêter de penser qu'on trouvera le produit miracle. Qui ?
Bah écoute, ouais.
Parce que je vois que tu as écrit des petites choses, alors...
C'est intéressant, parce qu'en fait, je vais rebondir sur le problème des transports, qui est surtout un problème... transport, on s'en fout, quoi. C'est surtout un problème humain de salariés, parce que nous, on est syndicalistes, donc c'est un problème de salariés, d'usagers, plus généralement, mais de salariés. Le salarié qui travaille dans les transports, comme tu le disais à propos des conducteurs ou des agents de maintenance, et puis de ceux qui les utilisent pour aller travailler, justement. Donc là, ça c'est un problème beaucoup plus vaste. Et dans une région aussi densément peuplée, aussi densément... transporter, hein, parce qu'on est en multimodal, le RER, le métro, le train, le je sais pas quoi, un tas de trucs qui roulent, quoi. On est d'abord, dans un espace hyper pollué. On est dans un espace absurde parce que moi je suis bien placé pour le savoir. J'habite dans le nord-ouest, je vais bosser dans le sud-est de l'Île-de-France, grosso modo. Ce qui est complètement ridicule. En plus, à des heures où, parce que forcément, les heures des usagers, c'est entre 7h et 19h. Grosso modo, il y a 80% des salariés qui sont...
C'est les invisibles, ceux d'avant et ceux d'après.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux lotis. Quand je prends mon train à 7h, il arrive de loin et il y a ceux qui dorment dans le... Alors parfois, je le prenais un peu avant. Et il y a ceux qui dorment dans le train et qui arrivent parfois de très loin, en grande banlieue. On prend le train, à 6h, 6h10. Les types, ils sont... Et puis, ils n'ont pas intérêt à le louper, ce train, parce que... Alors, gare, c'est le seul, peut-être, dans l'heure ou un des deux dans l'heure, quoi. Sachant qu'il y a un direct, l'omnibus, enfin, il y a toutes sortes d'artifices qui font que, très rapidement, tu peux être en retard au boulot et donc perdre de l'argent. Pour peu que tu pouvoir perdre ton boulot, parce que si tu fais ça 3-4 fois, le patron va te dire, mon gars, faut te lever plus tôt. Sans mesurer l'absurdité, la connerie monumentale de ce genre de réflexion, parce que pourquoi tu vas habiter loin, c'est pas... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui habitent loin, des salariés qui habitent loin parce qu'ils ont, une maison avec un jardin.
C'est un peu maso.
Mais il y a ceux qui... Pas parce que c'est, tu vas plus tu t'éloignes du centre de Paris, plus moins c'est cher, a priori. Et ça ne veut pas dire que c'est... Voilà, c'est... À mon avis, c'est...
En rapport avec ce que tu gagnes.
Exactement, ouais. Donc on est dans un... C'est la double peine, quoi. Une fois de plus. Et puis il y a la qualité des transports qui ne suit pas. La qualité de l'investissement des transports publics. Mais même... Tu prends ta voiture ou ta moto... t'es quand même, ça a un, c'est du transport individuel, mais t'es quand même sur la, tu utilises des voies publiques, hein, payées par nos impôts, qu'on devrait être, ça devrait être bien, quoi, sans risque. Alors, pas d'ornières, pas de nid de poule, pas de bande glissante qui devrait être bannie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pas de petits séparateurs à la con là qui font que tu te pètes la gueule.
Mm-hmm. Oui, justement, oui. Ils mettent un certain nombre de choses comme des dodanes ou des quoi. Mm-hmm. Justement, pour pas qu'ils prennent trop de vitesse. Mm-hmm. En fin de compte, c'est super dangereux.
Ouais. Oui, non, mais de toute façon, le problème
surtout pour les deux roues.
Le problème qui s'est passé et qui se passe, c'est que le problème, c'est pas le fait que ça appartient, comme tu dis, aux contribuables, tout l'ensemble, parce que tout appartient aux contribuables, hein, que tu le veuilles ou non, hein, tout, ce qu'on le veuille ou non. Le problème, c'est qu'on a des gens qui mettent pour se faire toujours du fric des prestataires derrière. Le prestataire, lui, il est là pourquoi? Lui, quand on sait combien de fois ils ont été mis en cause, par exemple pour les autoroutes, bon, on n'est pas pour les des autoroutes partout. Mais quand tu vois qu'il y a certains endroits, tu te demandes, t'es sûr qu'ils mettent de l'argent pour remettre en état les routes? Non, ils mettent le strict minimum. Non. Et à la fin, tu t'aperçois que ils font même pas un effort en disant, ben voilà, j'ai fait tant de bénéf et tant de pour mes actionnaires et tout. Et en fin de compte, tu t'aperçois que tes routes, elles sont toujours aussi pourries dans beaucoup d'endroits.
Et ben justement, j'ai vu dans le métro aujourd'hui, sur la ligne 12, il y avait une affiche. C'était marqué pour les terres, pour la forêt,
oui.
Stoppons la 69. Mais à mon avis, ce n'était pas une affiche officielle.
Non.
Hein. mais je préfère ces affiches-là.
Oui, oui.
Voilà.
Oui, mais même en allant rapidement sur ce que tu viens de voir et tout, quand tu vois ce qu'ils font subir, même si tu n'es pas d'accord sur la pensée de ceux qui sont dans les arbres ou quoi que ce soit, ça, chacun a le droit, hein, y a ceux et tout. Mais quand tu vois ce qu'ils leur font subir, alors qu'ils l'expliquent aux gens, mais si on fait ça, en plus, ce n'est même pas pour gagner quoi que ce soit, parce qu'ils ont dit, hein, c'était vraiment une absurdité totale.
On entend le trajet, ouais.
Voilà, ils aménageaient la route qui est à côté, et tout, bien comme il faut. Bien comme il faut, hein, sans faire du blé et tout, hein, sans rajouter des arbres ou même des machins et tout, et c'était bon. Mais non, mais le problème, c'est que les quelques kilomètres d'autoroute et tout, c'est plus rentable pour les entreprises qui vont le faire de faire la rénovation. Mais le pire, c'est pas ça, c'est quand tu vois des... On sait très bien à quoi sert le pouvoir public et nos chers Pandore, ça c'est sûr. Mais... ça ne les gêne pas de leur faire subir ce qu'ils sont en train de leur faire subir, là, et tout. Alors que ils ont peut-être dans leur famille, peut-être des enfants qui vont par la suite s'apercevoir que ce qui n'a pas été fait à l'époque où ses parents étaient en train de vouloir foutre en l'air ceux qui étaient dans les arbres, que plus tard, ces enfants-là, ben, ils vont subir la catastrophe réelle. De l'environnement, hein, et tout, sans pour autant être un écolo, tu sais, comme ça, enfermé. Hein. Il faut aménager la ville, il faut aménager les campagnes telles qu'elles peuvent être aménagées, et c'est faisable. Et ça coûte pas plus cher. Mais là, on touche à quoi? Comme toujours, on touche au système du capital.
Super à la ville de Paris. Un titre de fonctionnaire, comme ça j'ai trop d'ennuis. Les touristes sont crétins, mais moi j'en fais mon cristal. Je conduis le petit train de Montmartre à Pigalle. Mon petit train c'est mon bonheur, des fois je passe des nuits à trifouiller son moteur ou bien sa carrosserie. Je suis le génie de la bricole et un jour je trouverai le truc qui fait que ça décolle, j'en ferai une vraie fusée. J'ai commencé par fixer des berceaux de sécurité pour le confort des passagers, c'est déjà moi le pied. Les jantes larges sont un succès, j'emmerde le monde dans les rues. Je grille des priorités devant ces trous du cul. Mon petit train c'est mon bonheur, des fois je passe des nuits à trifouiller son moteur ou bien sa carrosserie. Je suis le génie de la bricole et un jour je trouverai le truc qui
fait que ça décolle, j'en ferai une vraie fusée. La nuit dernière, j'ai trouvé le bijou, le fin du fin. Oh, demain, ça va dépoter. Ah oui, à bord du petit train. Après 18 packs de crew, j'ai trouvé la solution. C'est un énorme turbo à faire péter les plombs. Mon petit train, c'est mon bonheur. Des fois, je passe des nuits à trifouiller son moteur ou bien sa carrosserie. Je suis le génie de la bricole. Aujourd'hui, on va changer le parcours des gros mongols. Ça va enfin saigner. Accrochez-vous, c'est parti, ça y est, ça s'affole derrière. Et déjà un gros bouffi recrache son hamburger. À 120 dans un virage, une suédoise et sa copine gicle à travers le grillage, s'écrase sur une vitrine. 160 dans la ligne droite, je traîne une anglaise dans ma roue. Sur les pavés, elle s'éclate, son pébre capote nul coup. À 200, je ne contrôle plus, pile en face, le père Lachaise. Zop, les freins ne répondent plus. Je m'y mette un turbo sur ma chaise. Un turbo.
Alors, qu'était-ce donc, Bénédicte ?
Ah, c'était ah, le papayou, le roi de la route 2, le retour des VRP.
Voilà. Oh, on ne rajeunit pas.
Eh non.
Ouais, non.
Et voilà.
Ouais, les VRP, oui.
Ah, il était très attentif, Norbert, à cette chanson, parce que ça lui a rappelé, effectivement, il traficotait comme ça les... Hein, les il faisait de la maintenance, mais pas que, il traficotait les rames pour gagner du temps.
Ouais.
Bon, et ben, on parle de traficoter les rames, là, la maintenance. Au 1er janvier 2023, ouais, il manquait 300 agents de maintenance des TGV.
Ouais.
Pour avoir une. Pas pour en avoir en plus, hein.
Non, non.
Pour avoir le compte pour entretenir les TGV. Et j'ai lu ça hier, j'ai relu ça aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais reprendre le TGV un jour. Pas tout de suite.
Bah, il faudrait écrire au PDG de la SNCF. Il faudrait écrire au PDG de la SNCF, là. Je crois que cette année, ils ont encore fait combien de BNF ? 1,2 milliard, c'est ça ?
Je sais
bah,
pas.
Pour une fois qu'on n'a pas renfloué, leur mettre du pognon.
Bah oui, mais justement, c'est que l'année dernière, c'était encore mieux.
Ah oui.
Donc, et 300 embauches de mainteneurs, ça coûte pas un milliard et quelques.
Ouais. Ouais, c'est vrai, vous êtes bien payé, vous, SNCF.
Ah, mais je suis pas SNCF.
ATP, c'est pareil, commence pas à te défendre, tu peux pas te défendre, c'est pas possible. C'est mal tombé.
Ah. Ben non, parce que le PDG, c'était ton ancien Premier ministre à la RATP.
C'est pas le Premier ministre, je ne sais pas de quoi tu parles, commence pas les provocations. Hein. Bon, non, mais c'est vrai que coup. Sachant qu'on a misé pendant 30 ans sur le tout TGV, on a dévitalisé les lignes secondaires, le réseau secondaire, pour mettre les gens dans des bagnoles. Pire, maintenant, non seulement ils vont en bagnole à la gare, et à la gare, ils attendent le train à 5 heures du mat pour ensuite aller arriver à Paris ou je sais pas où.
Encore, ça c'est rien. C'est que, encore, quand tu dis attendre un train, en général, tu vas faire un voyage des fois. C'est même pas des fois, c'est assez souvent. Tu vas faire un Paris, par exemple, un Paris-Limoges, ok, avec ton train. Et le problème, là, c'est que comme ils ont supprimé un tas de lignes autour, tu finis avec le car. Et quand tu calcules le temps que tu as passé dans le TGV, ah certes, t'es arrivé à Limoges en moins de 3 heures, et tout, et tu passes un peu plus de 2 heures si tu vas dans d'autres régions parce que ils ont supprimé des lignes, même dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple. C'est pas besoin d'aller plus loin. Hein. T'as combien de trains? Alors, moi, j'ai des collègues qui le prennent. Hein. Le collègue qui prennent le train justement qui vient sur Paris et tout, il dit mais tu sais ils s'emmerdent plus maintenant, hein. Ils te disent pas suite à un incident et tout, ils disent train supprimé. Le problème c'est quand les gens sont sur le quai qu'ils attendent le train.
Bah, tant qu'ils sont pas dans le train, train supprimé, mais je suis dans le train, ta gueule, train supprimé.
Non mais t'es sur le quai, tu sais que tu vas normalement avoir un train à telle heure et tout. Te disent train supprimé. Le problème, c'est que si t'en avais un dans les 10 minutes encore, tu dirais, bon, c'est chiant. Et tout. Mais c'est pas le cas. C'est une heure après. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Mais bon, bah, nos chers journalistes de nos chères radios et tout, ont tendance un petit peu à dire que c'est pas la réalité.
Oui, ou alors tu sais, ils s'en emparent parce que sur les médias mainstream, quand on parle, ou même les autres merdes de médias, pareil. Ils s'en emparent, mais simplement pour faire du sensationnel. C'est-à-dire que s'il y a une crise quelle qu'elle soit, on a bien vu ça avec les pécores. S'il y a une crise quelle qu'elle soit, ça y est, c'est on va montrer le truc le pire, le plus extravagant, le plus outrancier, le plus dangereux, le plus violent, le plus mal... c'est un arbre qui cache la forêt de toute façon, hein. Et ça c'est une méthode journalistique qui bat son plein, qui est absolument malhonnête intellectuellement et qui ne laisse pas la place à l'analyse de fond et puis
ils veulent pas faire d'analyse. C'est de l'accompagnement du gouvernement en fin de compte, hein. C'est de c'est une manière de faire passer un petit peu la pilule, d'éviter pas aborder les thèmes qui vont te faire réfléchir. Et en façon, on va aborder certains thèmes de manière à ce que tu acceptes. Hein. Tu vois, on va pas te poser des questions. On va pas t'amener à réfléchir, à prendre du recul. C'est paf.
Le sujet qu'on parle, comme tu disais, des agriculteurs, ils remettent pas en cause le fait qu'il faut changer notre manière de voir l'agriculture. Ils disent simplement, une grande partie, hein, parce que les petits, malheureusement, tu les as pas vus, et comme ils ont tellement de difficultés, que de toute façon, ils sont sur leur exploitation pour essayer de survivre. Ceux que tu as surtout vus, hein, c'est ceux qui ont les moyens, souvent. Hein. C'est quand tu vois le matériel qu'ils avaient.
Puis c'est pas les gros non plus qu'on n'a rien à faire, en fait, le gars qui a 700 hectares.
On a semé la confusion dans l'esprit des gens. Moi, je vois au boulot, on parle. Effectivement, il y a les agriculteurs qui râlent, qui bougent. Et puis, on t'a parlé précédemment des agriculteurs qui se suicident. Mais en fait, ceux de la FNSEA et ceux qui se suicident, et tu peux y être, mais en général, c'est très rare. Ils n'ont pas les mêmes. C'est pas la même réalité, c'est pas les mêmes contraintes. Mais comme tu as parlé des suicides, parce qu'effectivement, c'est du sensationnel de dire il y a un agriculteur qui par jour qui se suicide. Et puis là, on te dit là, ils manifestent, ils font ci, ils veulent plus de. Je sais pas, plus de pesticides. Non, mais il y a des trucs de dingue, en fait. Parce que les mecs qui sont à la FNSEA, ce sont aussi les mêmes qui sont dans des. Dans des associations de recherche justement pour la pas donner de nom mais enfin en gros qui sont vraiment dans l'agro-industrie
le président de la FNSEA
qui font proliférer les pesticides et les engrais quoi. C'est un truc de dingue.
Tu prends le président de la FNSEA,
ils ont pas les mêmes intérêts que les agriculteurs, hein.
Il est président d'une société qui fait du bio machin avec l'alimentation.
On fait
pousser de l'alimentation. C'est même plus de dire on fait pousser de l'alimentation pour nourrir les gens. On fait pousser des produits alimentaires pour mettre dans ton réservoir. Donc, on est arrivé à un point, sous le prétexte qu'il faudrait changer, mais de toute façon, on ne changera rien tant qu'on est dans cette idée du capitalisme. De toute façon, on réduira.
Consommation.
Voilà, on réduira certainement la pollution, certes, et encore, je ne suis pas tellement sûr, parce qu'il va falloir en produire des betteraves, hein, pour que ta bagnole elle roule, hein, et tout. Il va falloir en produire, hein, des objets, hein, pour mettre des batteries dans tes voitures, hein, parce que ça, faut pas rêver. Hein. C'est vrai, oui.
Non, ça,
voilà. Donc, de toute façon, on reste toujours, de toute manière, dans le système. on va donner un petit peu pour éviter que ça explose. En fin de compte, c'est ce qu'ils font là en ce moment, hein, et tout. Mais arrêtez le système, qu'est-ce qu'il fait ? Ils sont aidés à 90% la plupart des agriculteurs. S'ils n'avaient pas cette aide-là, ils seraient totalement... Ça sera encore pire que ce qu'ils ont maintenant. Mmh. Et ils le savent. Mmh. Il y en a, ils veulent pas sortir de ça parce qu'ils savent très bien que c'est ce qui leur fait leur pognon. Ouais. Les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mmh. S'ils laissent tomber, ils ont deux solutions. Ou comme tu dis, voilà, ils revendent. Mais tu sais, les suicides, il n'y en a pas que chez les agriculteurs. Hein,
oui, non, mais...
Et tout.
Non, mais on parlait de sensationnalisme. La confusion qu'il y a entre les petits agriculteurs, effectivement, qui se suppriment, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et puis,
tu vois même
ceux qui organisent des conneries.
Tu vois même syndicalement, je veux dire, pourtant, d'accord, je suis un libertaire, je suis un anarchiste et tout, et pourtant, je suis assez proche de la Confédération paysanne. C'est pas des révolutionnaires à tout va, mais ils ont une autre idée du système et tout. Bah, tu sais, ils n'ont pas été invités régulièrement dans les médias, et tout, très rarement.
Jamais.
Deux, trois fois, parce qu'il fallait quand même un petit peu, quand même.
Au nom du pluralisme.
Le pluralisme, comme on dit. Voilà. Mais je veux dire, et pourtant, ils expliquent, ils le disent, en plus, ils le disent à un grand nombre qui sont là. Et, ont aussi été dans le système de ce que propose la FNSEA. Je veux dire, ils en sont sortis.
Le transport, non ?
Pardon ?
On revient au transport ?
Non ? Oui !
Ouais, les tracteurs, c'est le transport, qu'est-ce que tu nous embêtes ? C'est le contraire. Jette-lui une betterave.
Moi, je trouve que c'est beau un tracteur. T'as jamais conduit un petit tracteur ?
Si, c'est une plouguesse.
J'ai une fille d'agriculteur, donc oui. J'aimais bien conduire le tracteur.
Maintenant, t'as plus besoin de conduire, c'est automatique.
Ouais, quand t'as les moyens, sinon tu te suicides. Voilà. Bon, c'est pareil, il manque plein de monde partout, alors qu'il y a plein de chômeurs. Il manquerait 4000 chauffeurs de bus scolaires.
Ouais.
J'ai lu ça dans les journaux, alors dans plusieurs journaux. Alors, soit ils se sont passés l'info, ils ont vu ça sur l'agence pas Havas, mais ça c'est au 19e siècle. Mais l'agence Méfesse, l'AFP. Voilà.
L'AFP.
Et 4000,
qui a été privatisé.
Oui. bien sûr, c'est pour donner de meilleures informations. On commence pas, hein, s'il te plaît. Hein. Donc, 4000, qu'est-ce que.
Bah, tu sais, chez nous, les machinistes, il nous faudrait, pour remettre un petit peu, 5000.
5000.
Et encore
hein. Putain, on va faire une.
C'est pas pour être comme ça, hein.
Oui.
C'est pour arriver.
Et ils font des lois anti-immigration. Alors qu'il y a peut-être plein de mecs qui pourraient nous conduire des.
Hein, ah non, mais ceux-là, ils auront droit, avec une carte bien déterminée, de conduire un bus. Hein. Et quand ils n'en auront plus besoin, on enlèvera leur autorisation d'avoir le droit de vivre dans le pays dans lequel on est né.
Mais disons, moi, il y a un truc qui m'agace profondément, c'est qu'on est dans un pays aujourd'hui où les trains ne roulent plus, les métros ne roulent plus. Alors, quand il n'y a pas des feuilles sur les voies, c'est parce qu'il y a des ruptures de caténaires. Quand c'est pas des ruptures de caténaires, c'est des rails qui sont dilatés par la chaleur. Dilatés par la chaleur.
Dilatés aussi par l'espoir.
Mais il y a des colis piégés ou il y a un bagage oublié.
Oui.
C'est quoi ce merdier? Sans déconner, tu passes plus de temps arrêté qu'à rouler.
Bah oui. si tu veux, on va être.
Et attends, je vais ajouter
vulgaire.
Une couche.
Si tu veux faire chier le citoyen, tu prends les normes que tu dois prendre en tant que conducteur ou machiniste. Mmh. Je veux dire. Là,
si tu les appliques, tu
dis. Il se fait trucider, le gars. Hein. Mm. Quand je dis trucider, parce que là, Mais là, c'est surtout parce qu'en ce moment, ils veulent aussi un peu faire chier les directions pour justement un peu avoir un petit quelque chose pour les Jeux Olympiques.
C'est ce que prenait la CGT fin du 19e siècle, début 20e siècle, justement, chez les. Pour le rail, donc c'est une manière de faire du sabotage strictement
si tu appliques la réglementation, mais vraiment, hein, Si réellement tu l'appliques telle qu'elle est déterminée, hein, telle qu'on te le met devant les yeux quand tu rentres dans quelle que soit la boîte des transports. Je peux t'assurer que...
Il n'y a plus rien qui roule.
Voilà. Et combien de fois on a fait rouler des trains, des machins, sans s'occuper de ça, sans se préoccuper de ça. Mais comme en ce moment, il y a besoin que ça fonctionne bien... Donc, ils font le truc. Et puis, surtout...
Alors, ils font les trucs, d'accord, parce que là, on est quand même dans une... je suis assez d'accord, il y a des règles, il y a de la sécurité, il en faut, parce que c'est quand même dangereux. Puis, on est de plus en plus nombreux à utiliser les transports.
C'est surtout ça,
le et puis, voilà, il y a pression démographique, en tout cas en Île-de-France. Mais moi, ce qui m'agresse profondément, c'est que, en fait... la SNCF comme la RATP utilise un langage agressif ou une démarche agressive, c'est-à-dire qu'on va te dire bagage oublié, bah, attention, ça vous fait 300 euros d'amende, je dis une bêtise, mais je sais plus combien c'est, 300 vous risquez 300 euros d'amende et puis je sais pas quoi, bref.
Ça occasionne 2 heures de retard.
Ouais, 2 heures de retard. Si vous traversez les voies, ça je l'ai vu sur un panneau, si vous traversez les voies en dehors des espaces dédiés, non seulement vous allez payer une amende, mais en plus vous risquez, je sais pas, 3 ans de prison. Enfin, je veux dire, j'ai encore entendu dans le métro tout à l'heure, bah oui, alors si vous... d'empêcher le métro de se fermer, vous risquez une amende et puis un emprisonnement. Enfin, où on va, quoi? Avant, il y avait le petit lapin. Il y avait le petit lapin sur la porte. Dis attention, tu vas te pincer les doigts. Bon, c'était plutôt cool, c'était plutôt pédagogique. Bon, ça s'adressait plutôt aux petits. Mais les grands, vous voyez aussi le petit lapin qui se faisait pincer les doigts quand le métro fermait. Donc on disait, tu mets tes doigts, et voilà, ce serait comme le petit lapin. Aujourd'hui, on te met un bâton, un coup de bâton. À chaque fois que tu prends un transport, on te répète sans cesse que on va te faire raquer parce qu'on touche au porte-monnaie.
Ben oui.
Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est de plus en plus cons, nous les usagers, ou parce que on est dans une société qui file...
qui est de plus en plus répressive.
Hein, répressive.
Ça s'est vu avec les manifs depuis les gilets jaunes. Hein.
Ouais. Et d'ailleurs... Je suis passé en auto tout à l'heure.
Qui entend. Et les auditeurs.
Et mais pas son casque.
Oui. En auto tout à l'heure, les trous de balles de taxi de merde qui sont des patrons qui font grève, mais il ferait mieux d'aller faire grève ailleurs que sur mon périph. Hein, quand je passe, déjà, à bon entendeur, salut. Eh bien, il y avait d'autres trous de cul qui les attendaient à deux sur une motocyclette, un avec un grand bâton, et ils étaient une meute. Parce qu'ils chassent en meute les bandits. Tu as raison, ça s'est vu avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est un déclencheur de la violence et même de la l'animosité.
L'État s'est réapproprié la violence ultime. Parce qu'ils l'ont à une époque, c'était pas pareil. Hein, ils l'avaient utilisé très violemment. Ils s'étaient un peu calmés. On va dire, ils s'étaient légèrement calmés. Quand je dis légèrement, je me comprends. Hein. Mais là, ils avaient repris ça en place. Et puis surtout qu'ils voyaient bien qu'en bas, ça bougeait de trop. Ça bougeait de trop.
C'est vrai qu'à l'époque de Malikou Sekine et des voltigeurs de Pasqua, effectivement, ça avait dû poser des problèmes, donc ils ont arrêté. Mais là, ils ont un champ libre.
Ah, c'est un boulevard.
Toute façon,
et puis on voit bien en Europe, dans le monde. Tous les chefs d'État les plus autoritaires, les plus fascisants, on le vend en poupe.
Parce que
il faut voir les trous de balles qui prennent les postes de ils ont vraiment des têtes de bandits, quoi. Des têtes de bandits, quoi.
Ouais, des têtes de l'emploi.
De toute façon, qu'ils aient la tête ou pas la tête, de toute façon, c'est des gens qui sont là pour un certain temps, comme je disais tout à l'heure. Et comme ils veulent se faire un maximum très rapidement et tout, comme ils disent, de toute façon, moi je partirai, c'est un autre qui prendra la place. Donc je fous la merde à un endroit, mais bon, de toute façon. Ah oui, alors là je vous présente... Le guide des bourgeois.
Oui, alors, chers auditeurs, auditrices, vous savez pas, il y a Jean-Manuel du Proton, des Mus Samus qui vient d'arriver. Et voilà.
Voilà.
Et Norbert règle ses comptes, visiblement.
Non, non, non. Encore, j'ai dit les bourgeois, j'ai pas dit des plus riches du monde. Non, non. Mais voilà, donc on reviendra toujours sur le fait qu'on est arrivé à un point maintenant. De toute façon, ils n'ont que ça, puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas retourner en arrière dans le. À part si la société, comme je te disais tout à l'heure, se réveille. Pour le moment, c'est pas le cas.
La belle endormie.
Voilà, la belle. Mais je veux dire, l'État, de toute façon, va rajouter de la violence. Et de toute manière, en plus, là, le dernier qui, soi-disant le gestionnaire du pays, là, et tout, de toute façon, il sait que dans 3 ans, c'est terminé pour lui, et tout. Donc, il prépare le terrain, comme tu dis, les autres.
Marine Le Pen.
Pas forcément. Ou Zemmour. Enfin. Ça sera pas forcément elle, mais je veux dire, il prépare le terrain, de toute façon, je veux dire, fascisant. Oui. Alors, ça sera pas un fascisme, peut-être, tu sais, à baïonnette et
non,
tout.
Non, mais ça sera pas un fascisme voilà, comme dans les années 30 en Allemagne
et en
Italie. Voilà, pas mais un fascisme tel que le décrit Orwell, avec le chapeau melon et le parapluie sous le bras.
Voilà. Donc, voilà, donc il prépare carrément le terrain pour ça, de toute façon. C'est.
L'esprit.
Après, c'est aussi comme je dis toujours, citoyen, à un moment donné. Alors, je sais, t'aimes pas trop quand j'utilise le terme citoyen.
Mais
pour moi, je suis désolé, quand il y a eu la Commune de Paris, pour moi, je reste toujours dans cette idée-là du citoyen de la Commune de Paris. Donc, après, bonne ou mauvaise, hein. Ça, moi, je suis prêt à en rediscuter, puis je suis prêt même peut-être à dire peut-être qu'il y a un autre terme à utiliser. Hein. C'est pas,
Je t'y invite.
Voilà. Mais on discute
fermement.
Dans 15 jours, tu.
Ah, ça va pas tout seul, alors tu débattes.
Il va faire venir Frédéric.
Ah, oui, oui. Normalement, il est d'accord, il n'a pas de problème. Tu peux quand même le contacter.
Hein. Il répond pas.
Oui, oui, mais si, là, je l'ai eu.
Voilà. Donc, non, mais il est bien invité.
Mais voilà. Bon, révolutionnaire, voilà, on va dire.
Il va les fédérer. Là, je relis, je lis même plutôt la commune de Louise Michel.
Oui.
On n'entend pas beaucoup citoyens dedans. Hein.
Non.
Fédérés, gardes nationaux.
Les gardes nationaux.
Là, il a un, tu sais,
les gardes nationaux, il y en avait aux États-Unis aussi. Hein.
Il a un petit machin de Tipex blanc, là. Il raille tous les citoyens, il raille. Alors après, il les voit pas. C'est automatique. Il met un coup de blanco, là. Je comprends pas la phrase, là. C'est quoi, il écrit n'importe quoi, lui. Hein.
Voilà. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que, bon, en finissant sur tout ce qui peut être transformé, même pour autre chose, de toute manière, on reviendra toujours à la même chose. C'est que la structure est faite de façon à ce que, de toute manière, quel que soit le niveau, mais, rien ne change.
Ouais, alors les transports, il y a un peu ce que nous, on en fait au quotidien. Mmh. Alors, on peut difficilement agir sur les transports. Il y a ça, soit tu les prends, soit tu les prends pas, soit tu prends un mode de transport, soit tu en changes parce que ça devient... et t'en as besoin quand même pour aller bosser. Enfin, je veux pas travailler par plaisir.
Le transport, tu les prends, quel que soit le transport. Oui. Hein, je veux dire, que ce soit du vélo, que ce soit du machin, de toute manière, tu le prends, le transport. Tu le prends.
Ouais.
T'as même pas le choix dans beaucoup d'endroits.
Moi, je m'interrogeais justement sur la notion de transport public, transport privé. En fait, c'est le... c'est pas aussi clair que ça, hein, c'est une notion sur laquelle éventuellement revenir.
La différence, quand tu dis transport public et transport privé, la seule chose, c'est que le privé, de toute façon, il vit avec l'argent des contribuables pour pouvoir se faire du fric dessus. C'est tout.
Et oui, donc, puis on est tous sur des infrastructures qui coûtent tellement de pognon, les routes. Le rail, comme les voies fluviales, que c'est forcément du collectif. C'est collectivement.
C'est toujours du collectif. C'est toujours, au moment du paiement, c'est toujours collectif. Voilà.
Eh ben, on va s'arrêter sur ce mot, paiement.
Non,
plus que sur collectif. Non. On va laisser l'antenne au Mus Samus, puisque Jean-Manuel est là.
Oui, j'ai vu ça. Le guide est dans le coin.
Le guide.
Le guide suprême, où est-ce qu'il est?
Et puis, bon, nous, on va se retrouver donc. Alors, ce sera la même équipe, hein, plus Frédéric.
Voilà.
Pour évoquer
Et puis,
la commune
façon,
et peut-être. plus précisément peut-être tout ce qui est autour du 18 mars.
Voilà.
Hein,
voilà.
Ça veut bien. Mmh. 18, ça sera le, on, nous serons le 18 mars.
Voilà.
On sera la commune, mais la déclaration de la commune et un petit peu les manifestations qui étaient contre hein, jusqu'au 22 mars.
De toute façon, j'ai
dit, allez, on va faire tout le mois de mars.
J'ai dit à Fredo qu'il devait travailler sur le sujet.
Voilà, il y a intérêt.
Voilà.
Il y a intérêt à s'impliquer.
C'est une date, ça tombe bien, c'est une date anniversaire. C'est
pas ben oui.
Ouais.
Faut pas louper cette émission. Amis auditeurs.
Auditrice.
Rendez-vous et... le 18 mars.
Alors, si vous avez tout ce qu'il faut avec vous, hein, les fourches, les fusils et tout, vous pouvez venir avec. Hein.
Mais c'est pas pour nous. Hein.
Non.
C'est pour les autres. Bon, voilà, bah, voilà. Lance-nous le générique.
Voilà.
Et puis, on va remercier d'avoir écouté. Merci Norbert d'être passé.
Oui, pas de problème.
À dans 15 jours, le 18 mars. 19h30, 21h.
Gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux
c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Qui sont ces hommes, ces comédiens qui veulent la peau de mon citoyen, fièrement acquis par notre histoire, par nos défaites et nos victoires. J'ai honte. Pour faire valser le cœur de la reine, il faut bien sûr charmer la reine, mais tous jureront de leurs mensonges, de leurs promesses, de leurs jurons. Comme ils sont beaux ces prétendants, quand ils s'engagent si sobrement, dans leurs costumes fraîchement taillés, quel simulacre cette vérité. J'ai honte. Le geste souverain, la main de fer, mais au fond d'eux ne savent que faire, de ces gens-là qui désespèrent, qui placent leurs rêves six pieds sous terre. Quant aux affaires, je vous laisse seul juge. Il y a des peines qu'il faut qu'on purge. À la santé de la République, il y a ces hommes qui se font du fric. J'ai honte. Puis on efface et on recommence. Les mêmes arnaques, les manigances, les mêmes trafics qu'on influence. Quel abandon, ma douce France. J'ai pas d'amour pour ces gens-là. Dites-leur à tous que j'ai dit cela. À ceux qui jurent de marcher droit dans la pénombre de leur foi. Quelle honte.
Nous étions quelques complices, Alfredo et le Germain, que ses copains par malice avaient surnommé le cousin. Il y avait l'anglais de Boulogne, un adepte du tunnel, mon frère cadet de Gascogne, et puis moi l'intellectuel. On avait fait à Venise un petit casse-pas-cassin, on a filé jusqu'à Pise et on a discuté argent. Mais sur la tour, quelle misère! Alfredo s'est un peu penché. Quand on est dur en affaire, on finit toujours par tomber. È pericolo, è pericolo, sì. È pericoloso sporgersi. dans un coucou d'avant-guerre, on partageait les bières. Mais le germain en colère insinuait qu'on le volait. Il nous a dit dans sa langue,